de l'art et de la vie, une émission créée par Fania Pérez, conçue et présentée par Francine Shapiro.
Bonsoir. Nous allons évoquer ce soir la figure d'un peintre juif d'origine polonaise venu à Paris, injustement méconnu parce qu'il a disparu trop tôt, sa vie a été brusquement interrompue. Et il se trouve qu'une série d'expositions, grâce à ses enfants, dont vous allez ce soir entendre le témoignage. Ici, nous avons sa fille, qui est Madame Blondel Feidi. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous avons la chance d'avoir en ligne, et nous commencerons par l'interroger parce qu'il n'est pas à Paris, son fils Marc Blondel. Bonsoir Marc Blondel.
Bonsoir.
Pour évoquer la figure de votre père, pour le ressusciter, faire mieux connaître son œuvre injustement méconnue, vous avez entrepris une série d'expositions et un travail très important depuis, disons, une dizaine d'années. Et nous allons commencer par vous demander, Marc Blondel, vous avez créé une association des amis d'André Blondel.
Oui.
Et racontez-nous la jeunesse.
Je peux vous en dire un petit peu, tout à fait. Je peux vous en dire quelques mots. Cela remonte à l'année 2009, qui était une année importante, puisque c'était l'anniversaire, le centième anniversaire de la naissance de notre père. Et cet horizon 2009, j'avais à cœur de le marquer par quelques événements, et en particulier d'une exposition à 7, au musée Paul Valéry, et en concomitance à Carcassonne, la ville où il a vécu. Et à cette occasion, surtout pour pouvoir faire le catalogue de l'exposition du musée Paul Valéry, nous avons réfléchi et, conseillé par notre fille aînée Jeanne, nous avons décidé de fonder une association, les Amis du peintre Blondel, où il y a ces deux noms, Blondel et Blondel, qui permettaient d'avoir un relais associatif au niveau par rapport à un éditeur qui était Actes Sud, et le troisième composant, le troisième on peut dire producteur de ce projet, c'était le musée Paul Valéry. Vous voyez, l'association était un tiers, un élément de ce montage.
Il y a eu un très très beau catalogue
qui a permis de sortir ce livre catalogue, on peut dire, à cette occasion. Et à partir de là, l'association a perduré, elle perdure encore aujourd'hui. Comme vous dites, ça fait presque une dizaine d'années, pas tout à fait. Bon an, mal an, et elle le relaie. Je vais vous lire ses objectifs, parce que c'est quand même intéressant. Son but est de promouvoir l'œuvre du peintre Sacha Blondel, André Blondel, en favorisant le travail d'inventaire, l'approfondissement des recherches sur son œuvre et ses écrits, le développement des travaux situant l'œuvre de Blondel dans le courant d'art de son époque, et dans ces deux patries, la Pologne et la France, en assurant sa diffusion par le biais de publications, manifestations culturelles, artistiques, en œuvrant à la conservation et la sauvegarde de l'atelier dans son ensemble, en travaillant à préserver la cohérence entre l'œuvre et son contexte pour la faire vivre et en assurer la pérennité. Oui, c'est un vaste programme. Voilà. Hein. Donc, elle continue, elle ventile, elle relaie les événements qui se font, bien sûr, hors association. Je peux vous dire deux mots sur une production de cette association aussi, c'est les cahiers polonais. Peut-être ma sœur Hélène vous les a montrés.
Oui, je les ai sous les yeux et c'est tout à fait remarquable. Alors, vous allez nous dire comment vous avez pu réunir ces œuvres, porter à la connaissance d'un public français ces œuvres qui sont restées en Pologne,
qui sont restées à Varsovie. Voilà.
Oui.
Alors, je vais vous en dire deux mots parce que c'est toute une histoire. On avait eu connaissance de certaines de ces œuvres au moment de l'ouvrage du catalogue de Blondel à Blondel. On avait été en contact avec un auteur polonais, Madame Natasha Sterna, un chercheur de Cracovie, qui a fait une contribution dans ce livre, hein, qui a écrit un article, et elle nous avait dit, vous savez, à Varsovie se trouve tout un fonds très important de blondelles. Ça serait pas mal que vous ayez faire un tour, enfin que vous vous approchiez de cet institut. Et à partir de là, on s'est approché de cet institut, l'association. Ça a débouché sur un petit voyage en 2011. Le bureau de l'association s'y est rendu. On s'est présenté, parce qu'il s'agit des archives de l'Institut d'art de l'Académie des sciences, l'Académie polonaise des sciences, l'ISPAN. C'est une sorte de, je ne vais pas dire un bunker, mais c'est un endroit où on n'entre pas facilement, hein, où les choses sont très protégées. Et nous sommes restés une petite semaine et on nous a autorisé à photographier les archives de Blondel, qui ont été déposées là par ses amis à sa mort, ses amis polonais, pour pas disperser. Lui n'avait pas eu le temps de rapatrier ses œuvres, puisqu'il est mort en 49. Peut-être qu'il aurait eu l'intention de les faire venir. Toujours est-il qu'il avait laissé sur place encore pas mal de choses à Cracovie, à Varsovie. Et les dépositaires, ses amis, ont jugé bon de les rassembler d'abord à Cracovie. Et ensuite, je ne sais pas par quel biais, se sont retrouvés aux archives.
Ses
amis polonais artistes, absolument, du groupe de Cracovie.
Qui faisait partie d'un groupe,
voilà,
justement.
Le groupe, absolument, Maria Jarema et d'autres qui étaient restés en Pologne et qui avaient gardé quelques cahiers, des croquis, des dessins, vous voyez, pas mal de choses. Hein. On a fait plusieurs centaines de pièces. Vous voyez.
Se situait ce groupe appelé le groupe de
Cracovie,
par rapport à l'évolution de la peinture
C'est un groupe très important pour comprendre un peu l'œuvre de notre père. Il faut bien voir qu'il a été un élément important de ce groupe. Hein. C'était un groupe un petit peu en révolte contre les institutions locales. Hein. C'était dans les années 30. C'était un groupe, un peu avant-gardiste, hein, intéressé par l'art comme ferment d'émancipation, aussi s'intéresser comme l'art en tant que ferment social. Vous voyez, il y avait toutes les théories avant-gardistes de Russie qui étaient là, qui bouillonnaient.
Hein,
on est dans les années 30. Hein, c'était,
oui.
Et ce groupe, il y avait des personnalités fortes. Évidemment, il a éclaté après, hein, les gens se sont dispersés, certains sont morts à Katyn parmi les Polonais, d'autres ont disparu, d'autres ont émigré, et puis notre père fait partie de ceux qui sont partis, en 39 il a eu une bourse, il s'est retrouvé à Paris, et puis après il y a eu la guerre, son destin a changé radicalement, hein, peut-être qu'il serait rentré en Pologne après, mais voilà, il était à Cracovie, oui, pour ses études et dans ce groupe avant-gardiste, dit groupe de Cracovie. Voilà.
Qui était un groupe de rupture par rapport à l'art.
On peut
officiel.
Dire, voilà, mais comme souvent parmi les jeunes artistes, hein, qui veulent rompre avec leurs professeurs, hein, qui jugeaient académistes, et puis ils voulaient un petit peu faire, il y avait des tendances assez sociales, hein, faire un art. Engagé, hein, aussi, vous voyez, pas l'art pour l'art. Donc il se posait des questions par rapport à l'art abstrait, par exemple, par rapport à tous les mouvements de l'époque, à l'expressionnisme, à l'art abstrait. Est-ce qu'on va s'engager dans l'abstrait ou bien est-ce qu'on va garder encore de la forme? Enfin, ce sont des problématiques très intéressantes, hein, du groupe de Cracovie. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne suis pas spécialiste, mais il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus et ce groupe, il a perduré. On peut dire que Blondel et ses camarades font partie du premier groupe de Cracovie, celui de l'avant-guerre, parce que à l'immédiat après-guerre, il a perduré autour de gens comme Cantor, le fameux metteur en scène, hein, qui est connu en France, et d'autres peintres polonais, voilà. Hein.
D'accord.
Voilà, j'ai répondu à votre
merci
à vos
infiniment
questions.
De votre témoignage. Nous sommes obligés de donner la parole maintenant à votre sœur pour des raisons techniques et à regret.
Simplement, je voudrais dire que nous poursuivons hein, ce travail sur l'œuvre de notre père. De son côté, elle vous en parlera. Elle a actuellement les archives, les archives paternelles. Elle en dispose donc avec beaucoup d'écrits en plusieurs langues. Donc, elle fait un travail de fourmi et elle découvre pas mal de choses. Et elle va vous parler des expositions aussi qu'elle a mises en œuvre. Et donc, nous sommes complémentaires. Hein, l'association qui a un rôle un peu de public relation, un peu. Et chacun de notre côté, chacun à notre mesure, nous œuvrons de concert pour faire connaître cet artiste. Tout n'est pas encore connu de lui, loin de là.
Voilà. Il y a encore un gros travail à faire.
Voilà.
Merci beaucoup, Marc Boudel.
Je vous en prie et bonne continuation.
Merci.
Au revoir.
Alors, Hélène Blondel, la fille d'André Blondel, donc vous avez en complémentarité avec votre frère, vous êtes vous-même universitaire, comme votre frère est linguiste, vous avez déjà entrepris un important travail à partir d'archives familiales que vous avez retrouvées et qui permettent de retracer la vie de votre père.
Voilà, Blondel. Exactement. Mon frère m'a confié la petite valise que mon père avait toujours emportée avec lui au travers de toutes ses pérégrinations. Et cette petite valise contenait des quantités de documents et des quantités de photos. Et j'ai entrepris de classer, de déchiffrer et de classer d'abord les photos et aussi les documents, des lettres, des documents personnels, son acte de naissance par exemple. C'est un travail énorme et je suis aidée pour ce travail par une historienne qui sait le polonais et aussi par plusieurs amis qui m'aident à déchiffrer le yiddish et l'hébreu.
Vous êtes d'ailleurs mis à étudier, vous continuez le yiddish pour pouvoir, m'avez-vous dit, avoir accès à la culture d'origine familiale de votre père.
Voilà, c'est-à-dire que j'étais germaniste et bien sûr, ça me poussait naturellement vers le yiddish et dès que j'ai pris ma retraite, je me suis mise à apprendre le yiddish parce que je souhaitais entendre la langue qui avait été parlée dans la famille de mon père, entendre ce son de cette langue et la comprendre pour comprendre dans quelle sonorité il avait baigné, de quoi il avait été nourri. Et j'ai découvert, bien sûr, cette langue merveilleuse, beaucoup par les chansons au début, et par cette littérature. Et je me suis prise au jeu, et depuis 2009 aussi, je ne cesse de faire du yiddish et de découvrir des textes magnifiques grâce aussi aux institutions où on peut apprendre le yiddish à Paris. On est très gâtés. Et on a une enseignante remarquable, Batia Baum, à la Maison de la Culture Yiddish, et puis des spécialistes qui nous font comprendre tout l'arrière-plan disons des origines et c'est indispensable et je crois que c'est très beau de pouvoir accéder à l'univers qu'il a nourri par l'intermédiaire du yiddish et il se trouve que dans ce fonds d'archives nous avons quantité de photos de sa jeunesse et ça nous a révélé tout un aspect de lui qu'on ne connaissait pas, parce que ce sont des photos des mouvements de jeunesse de Tchortkov, qui était la Chomer Hatzair, donc de tendance sioniste. Et toutes ces photos sont inscrites au dos en hébreu. Et donc, ça révèle tout ce qu'il a fait. Il était dans ces mouvements de jeunesse. Son frère y était également. Nous avons des photos du frère qui est allé en Israël et qui en est revenu, malheureusement pour lui, parce qu'après, il a péri dans la Shoah par balle en 1942. Voilà. Et c'est tout un aspect de sa vie et de sa culture que nous ignorions. Et nous avons été aussi poussés à faire ces recherches grâce à des lettres qui nous ont été transmises par quelqu'un de Tchortkov qui habite en Israël, et des lettres en hébreu que mon père avait envoyées à son ami de jeunesse qui s'appelait Hanan Maidanek et qui, lui, avait émigré en Israël. Au moment, c'était après le bac, en 1928, où ces jeunes décidaient de leur itinéraire. Alors, il y en a certains qui ont émigré en Israël, et mon père, lui, qui était rentré à Tchortkov, a décidé de repartir en France pour faire des études d'art, parce que c'était la peinture qui l'animait depuis son plus jeune âge. Nous avons, parmi nos photos, une photo magnifique de lui qui donne un cours de peinture au bord de la Serette, c'est la rivière qui coule à Tchortkov, pour des jeunes gens. Donc, cette photo date peut-être de 1926, donc il a 1909, il a 9 et quel âge a-t-il ? 17 ans, voilà, il a 17 ans et il donne cette leçon de peinture.
Alors, nous allons nous replonger dans l'ambiance de sa jeunesse, que, bien sûr, vous n'avez pas connue parce que vous-même, vous êtes née en France.
Oui.
Et vous aviez 6 ans quand votre...
5 ans.
5 ans quand votre père a disparu. Donc, c'est en même temps pour vous et, je suppose, votre frère, une recherche de votre histoire et de votre identité au-delà,
bien sûr,
de la volonté de faire redécouvrir un peintre qui a compté dans l'histoire de l'art.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, vous avez choisi pour cette première pause justement une chanson yiddish qui est
Auf den Weg. Auf den Weg steht ein Baum. Auf den Weg steht ein Baum. Et j'ai choisi cette chanson parce que je l'aime et j'en donne l'interprétation au violon par Yitzhak Perlman. C'est une chanson où l'enfant veut devenir un oiseau.
Voilà, Hélène Blondel-Feidi. Donc, nous sommes replongés dans cette ambiance de polonaise à laquelle, finalement, d'après vos photos qu'on a pu voir reproduites et d'après ce que vous savez de les témoignages sur votre père ne s'est jamais arraché. Il avait toujours... La nostalgie et de ses origines, de sa culture d'origine, alors qu'il a travaillé beaucoup dans le Midi, mais il disait lui-même que la lumière, la grisaille de la Pologne lui manquait malgré la lumière.
Il ne le disait pas. Il le disait dans son journal, dans son journal
intime. Dans son journal.
Non, justement, il ne le disait pas à ma mère et ni à tous les gens qui l'ont connu. Il cachait tout ça. Mais nous l'avons découvert quand nous avons vu son journal et que nous avons fait traduire son journal. Son journal en polonais. Dans son journal en polonais, il écrit que, effectivement, il écrit que il ne voudrait pas mourir et, dans cette terre, ni être enterré parmi d'autres croyants que parmi ceux dont il partage l'origine. Et il dit aussi, j'ignore s'il y a des juifs ici, vivants ou enterrés, je voudrais leur manifester que je suis avec eux, qu'eux et moi avons la même origine. Et il écrit aussi quelque chose de très beau, parce qu'il souffre, il parlait très bien français, il était très doué pour les langues, et il dit que il est très heureux de voir qu'il peut encore parler polonais. Il dit qu'il est comme un aveugle qui se met à voir de nouveau. Et il écrit aussi que de temps en temps, il prend son Tanakh, sa Bible, et qu'il lit quelques pages pour vérifier qu'il est encore capable de déchiffrer les mots. Et ma vie se remplit alors un court instant d'une joie ineffable. C'était au moment où il se cachait complètement. C'était en 1943.
Oui, parce qu'il est arrivé en France et puis la guerre a éclaté.
C'est pas tout à fait comme ça, mais presque. Parce qu'il est arrivé en France en 1937. En fait, il est arrivé en France avec une bourse de l'Académie de Cracovie. Et il est arrivé avec un groupe de peintres du groupe, Maria Jarema, Blima Grunberg et une autre aussi, tout un groupe, au moment de l'exposition de 1937, et je crois que c'était pour étudier dans l'antenne de Cracovie à Paris. Et ils se sont installés à Montparnasse, à la cité Falguière, tous les deux avec sa compagne Blima. Et il a vécu donc à Montparnasse, il a connu Soutine, oui, il a connu la grande époque, enfin 1937-1939,
oui, oui.
Mais la guerre a éclaté. Voilà. Donc Paris, la guerre a éclaté et il s'est engagé dans l'armée polonaise en France. Et là, il a été envoyé au camp de Coëtquidan en Bretagne. Et nous avons de cette période à la fois des lettres, mais surtout de très beaux portraits de ses camarades polonais militaires. Et après, il y a eu la guerre. Il a été démobilisé à Toulouse fin juin 40. Et après, il s'est retrouvé à Aix-en-Provence. Il a dû se cacher. Il travaillait comme bûcheron. Mais pendant toute cette période, il avait sa valise. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et il continuait à peindre et à écrire. Et pendant qu'il est caché à Aix dans la cabane, il dit qu'il peint sans relâche et il dessine sans relâche. Il envoie une lettre, c'est le travail qui le sauve.
D'ailleurs, sa vie a été longuement évoquée dans un film, un très beau film réalisé par Gilles Corr, où il recueille le témoignage de filles de justes, on peut dire, qui ont trouvé que c'était leur devoir et qui ont refusé même de recevoir la mémoire à titre posthume de la médaille des justes, et qui évoquent avec beaucoup d'émotion sa figure et son travail, sa modestie. Et c'est un film que j'invite nos auditeurs à regarder à travers un lien qui s'appelle vimeo.com 66 89 66 30. Je répète, 66 89 66 30. D majuscule, et en minuscule, Gilles Corr, G-I-L-C-O-2-R-E. Et là, on a ce fameux témoignage de sa vie de peintre caché pendant la guerre.
Ça, c'était le deuxième endroit où il était caché, parce qu'il a d'abord été caché à Aix-en-Provence, et après, comme la zone sud a été envahie, il a été obligé d'être caché du côté de Carcassonne, et ça, c'est l'intermédiaire, par l'intermédiaire de maman. Il a connu maman à Aix-en-Provence, qui visitait des tantes qui étaient dans la résistante. C'est le milieu protestant résistant qui a sauvé mon père pendant la guerre. Et maman, qui avait rendu visite à ses tantes, l'a après accueillie à Carcassonne. Maman était professeure de physique à Carcassonne. Elle l'a accueillie à Carcassonne. Elle l'a fait monter dans ce lieu où habitent les filles de ce résistant qui s'appelle les Escoussoles. C'était un endroit... c'est un endroit au-dessus de Carcassonne qui existe encore, qui est un grand domaine où la famille Rive-Monod cachait des Juifs et a caché mon père. Et c'est là qu'il a travaillé aussi comme bûcheron et qu'il a beaucoup peint, beaucoup écrit dans son journal. Et c'est là que s'est noué, je peux dire, l'idylle avec maman. Et c'est là qu'il s'est marié. Voilà.
Et ça a été une grande histoire d'amour.
Oui.
Et puis votre mère était musicienne.
Oui.
Elle était pianiste, il adorait l'écouter, oui. Et ça l'inspirait pour sa
sans
peinture.
Doute.
Et nous allons marquer une autre pause en écoutant un morceau que votre mère interprétait très brillamment, qui est un morceau de Debussy.
Oui, des préludes, les sons et les parfums.
Hélène Blondel, donc votre père était dans le Midi et puis il est revenu à Paris, mais son destin a été tragiquement brisé, voilà, parce qu'il est mort accidentellement à 40 ans, donc il n'a pas pu, et sa carrière aussi. On va parler de lui pour terminer, surtout comme peintre, parce que c'est un merveilleux peintre. Quand on voit, j'ai pu voir la dernière exposition organisée à la Bibliothèque polonaise de Paris, où on montrait surtout ses dessins et quelques peintures. Et parlez-nous donc de son œuvre, parce qu'on avait l'impression que c'était avant tout un coloriste. Dans sa peinture, et un grand dessinateur en même temps.
Oui.
Alors, comment pouvez-vous le situer comme peintre ? Parce qu'on a l'impression, parfois, on voit dans son œuvre polonaise que son œuvre flirte avec l'abstraction. Il est presque parti de l'abstraction pour arriver à la figuration. Comment le situez-vous ?
C'est difficile en tout cas, on ne peut pas le catégoriser. Parce qu'il était en perpétuelle évolution et il voulait capter le mouvement de la vie. Il est parti dans les mouvements d'avant-garde polonais, hein, et il est effectivement parti de l'abstraction, parfois. Et après, quand il est arrivé en France, il a peut-être découvert encore la lumière C'est devenu très coloré, mais c'est toujours très construit. Tout ce qu'il fait, c'est très construit, très puissant. C'est fulgurant. C'est vivant, c'est un art, c'est, il veut que ça soit la vie. D'ailleurs, le groupe de Cracovie, qu'il a fondé avec les amis, en fait, il est sorti d'un groupe qui s'appelait Les Vivants. Avant d'être le groupe de Cracovie, c'était le groupe Les Vivants, contre l'académisme. Alors, son art, autrement, c'est difficile. C'est parfois expressionniste, parfois on le rapproche de Soutine. Il n'est comparable à rien.
Il s'est lié d'amitié avec beaucoup de peintres, oui. Des grands coloristes comme François Desnoyers.
Ah, beaucoup. Alors, il allait avec François Desnoyers peindre sur la colline de Sète. Mais François Desnoyers disait, il était différent. Il peignait très vite. C'est un grand portraitiste. Il saisissait l'expression.
Il y a beaucoup d'autoportraits chez lui et de merveilleux portraits de vous et de votre frère.
Ah oui, il adorait sa famille. Oui, et il adorait tous ces. Alors, dans l'époque où il a beaucoup peint en France, dans les années 44 à 48, on a de grandes scènes familiales, des maternités et beaucoup. Et surtout, il peignait sans arrêt. Il a une production étonnante pour sa courte vie.
Et il a eu de grandes expositions dans plusieurs musées
oui.
Des villes où il a travaillé et résidé dans le sud de la France, depuis Aix-en-Provence jusqu'à Perpignan ou Carcassonne.
Oui, juste après
et
sa mort.
À
oui.
Paris, Katia Granov voulait le prendre en main, mais votre mère tenait à garder son indépendance.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Oui. Et donc, c'est un peintre qui mérite d'être redécouvert. Et alors,
il y a toute une équipe qui travaille à cette redécouverte. Justement, le travail de l'Association des Amis de Blondel a donné l'impulsion pour ce travail de redécouverte. Et ça a donné naissance à une équipe de recherche qui travaille pour faire circuler l'œuvre. Parce que l'exposition à la bibliothèque polonaise, c'est l'exportation d'une exposition qui a eu lieu à Montolieu, près de Carcassonne, et qui a succédé à une exposition, très belle exposition de peinture qui était à Montpellier en 2014. Donc, et toutes ces personnes continuent à travailler pour Blondel. Et il va y avoir une exposition en 2018, de nouveau dans le Midi, à Sommières, dans le Gard, à l'espace Laurence Durel, une exposition qui va être organisée justement par le commissaire qui avait organisé l'exposition de Montpellier, qui s'appelle Numa en Bursin. Donc ça continue, l'œuvre circule maintenant.
L'œuvre circule et vous continuez votre travail d'approfondissement
oui.
de sa vie et de son œuvre. Est-ce que vous envisagez de réaliser un catalogue raisonné pour peut-être il y a des œuvres pour essayer de faire venir d'une part les œuvres qui oui. sont restées en Pologne
oui.
et d'autre part celles qui ont été vendues parce qu'il avait un grand succès, il a été collectionné par de grands collectionneurs, essayer de rassembler ça pour aboutir à une exposition muséale.
Ça serait merveilleux, ça serait notre rêve, je pense, et il faudrait avoir des soutiens financiers pour envisager ce catalogue raisonné. Moi, il se trouve que dernièrement, tout à fait par hasard, j'ai découvert qu'il y avait des toiles magnifiques dans des villes polonaises, et je ne le savais pas, une ville comme Częstochowa, là où il y a la Vierge Noire. Et voilà.
Eh bien, écoutez, c'est un appel qui est lancé. Ça aboutira certainement parce que vous avez lancé un tel travail, vous avez entrepris un tel travail avec votre frère que ça ne peut qu'aboutir. Et c'est l'occasion de découvrir un peintre qui n'est pas reconnu parmi les peintres juifs de l'École de Paris. Malheureusement, à cause de son destin, sa vie a été fauchée, brisée trop tôt. Donc, j'invite nos auditeurs à être vigilants et à découvrir cette merveilleuse œuvre de ce grand coloriste constructiviste, un peu,
oui.
qui était André Blondel. Merci Hélène Blondel, merci Marc Blondel d'avoir témoigné sur nos ondes. Et quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours. Bonsoir.
Merci Francine.
C'était De l'art et de la vie, une émission de Francine Shapiro proposée par la Galerie Saphir et ses trois espaces d'exposition à Paris 69 rue du Temple dans le 3e arrondissement et 69 avenue de Villiers dans le 17e arrondissement. En Bretagne, à Dinard également. Pour en savoir plus, appelez au 01 44 40 26 84 ou écrivez à galerie-saphir@wanadoo.fr.